bienvenue dans De l'autre côté de la musique, une émission proposée, présentée tous les mois et des thématiques associées par Michel Gerdella. Bonjour Michel.
Bonjour.
On peut le dire aujourd'hui que c'est pour le mois une émission massive hein, qui s'annonce avec un contexte, on pourrait dire, d'imaginaire, de fonderie et puis de compositeurs aussi qui se sont intéressés de près à des légendes et des mythes.
Voilà, oui. Alors aujourd'hui, on va choisir un instrument un peu particulier à l'orchestre. C'est l'enclume.
Ah.
L'enclume. Alors ça semble un peu
anachronique.
Anachronique, mais l'enclume, c'est un instrument qui fait partie des percussions et qui est composé de plusieurs tubes avec des caisses, une caisse de résonance. Mais dans les opéras de Wagner, par exemple, on sort les vraies enclumes et parfois on sort les vraies enclumes. Hein. Ah. Wagner avait réglé la tonalité de ces enclumes et on verra que elles ont été quand même abondamment utilisées depuis le 19e siècle. C'est arrivé au 19e siècle. Alors le premier opéra dans lequel ça a été joué, je ne l'ai pas trouvé. Hein. C'est un opéra de Aubert qui raconte l'histoire d'un maçon donc qui frappe, etc. Mais je n'ai pas trouvé cet opéra. Ce que je vous propose, c'est quelque temps après, c'est Berlioz. Berlioz écrivit un opéra, Benvenuto Cellini, où aussi là, il y a une fonderie, puisque Benvenuto Cellini était un artiste de la Renaissance italienne. Et bien sûr, il fit des œuvres en fonte, forgées. Donc, il y avait toute une atmosphère de fonderie, où on fondait les œuvres d'art. Mmh. Et Berlioz s'est emparé de cette histoire de fonderie, de réaliser une œuvre en métal. Oui. Voilà, donc il a inventé à un moment donné un chœur où l'on entend pour la première fois, c'est la première fois que j'en avais entendu, où on entend les enclumes qui jouent, symbole de toute la forge où se prépare l'œuvre d'art qui va jaillir des mains de Benvenuto Cellini. Voilà, je vous propose ce petit extrait de cet opéra.
Oh! le fait. À nos enfants du cœur, redoublez-vous, redoublez-vous de vigueur. Redoublez-vous de vigueur. Redoublez-vous de vigueur. Allons du cœur.
Allons du cœur.
Mettons-nous fait l'été. Au succès, nous voilà. Au succès, nous voilà demain.
Voilà, c'était Benvenuto
Cellini de Berlioz.
De Berlioz pour effectivement tout ce contexte puissant, massif de la fonderie et puis de l'enclume hein, qui symbolise vraiment la construction et puis un côté aussi très structurant,
un peu violent. Hein. Une forge, c'est violent, c'est des flammes, c'est de la chaleur, c'est tout un environnement un peu particulier. Mmh. Alors je vous propose quand même maintenant la grande découverte de l'enclume, c'est chez Wagner. Alors, chez Wagner, il va s'en servir. Là, on mettra des vraies enclumes dans Wagner. Il a besoin de vraies enclumes parce que quand elles sont sur scène, il faut mettre les vraies. Alors, dans sa tétralogie, qui est tétra, ça veut dire quatre, hein, mm-hmm. c'est pas dire trois, il a écrit quatre œuvres. Dans la première, c'est l'or du Rhin. Alors, dans l'or du Rhin, au fond de la terre, les nains forgent, ont volé l'or du Rhin aux naïades. Et cet or du Rhin, celui qui en fera un anneau, d'où l'anneau du Nibelungen, c'est le titre des quatre opéras, les nains vont devoir forger cet anneau parce que tout le monde cherche à posséder cet anneau, symbole de la puissance. Les dieux, tous les personnages cherchent à posséder cet or et à fabriquer cet anneau du Nibelungen. J'ai jamais fait d'allemand, hein. Excusez-moi, mais voilà. Donc, à un moment donné, il y a quand même 18 enclumes sur scène. C'est quand même impressionnant. Et nous allons entendre ce petit passage, ce petit interlude, une petite vision de l'enfer un peu symbolique. Mais enfin, on forge l'anneau. Donc c'était un extrait de l'Or du Rhin. Voilà la partie où on descend dans les profondeurs, où se forge l'or qui a été volé, bon, pour donner la puissance et la force. Voilà, donc Wagner réutilisera, dans, ça c'est beaucoup plus connu, réutilisera l'enclume dans Siegfried. Alors Siegfried, ce grand héros nordique, germanique, va demander qu'on lui forge une épée, et un personnage lui forgera une épée, et chaque fois qu'il s'en servira, elle cassera. Ouais. Alors, un beau jour, il va revenir voir, il va prendre les morceaux de l'épée, il ne va pas les ressouder, il va les fondre, et il va fondre son épée pour qui lui servira plus tard à tuer le dragon qui s'appelle Nothung. Alors, on va assister, bien sûr, à la forge de Nothung, et vous verrez le pur héros germanique, grand, blond, forgeant dans une exaltation toute wagnérienne, forgeant son épée.
Oh,
D'entre quelle orchestration.
Voilà, donc l'épée est forgée et Siegfried va faire un test. Il va prendre l'épée, il l'a tellement bien forgée, elle est tellement super épée, il va prendre son épée et il va partager l'enclume en deux. C'est dans la légende. C'est quand même un truc de qualité.
Ah oui, une épée remarquable.
C'est produit allemand. Hein. Oui. Voilà.
Donc pour cette légende de Siegfried par Wagner, l'enclume, émission spéciale autour bien de cet outil hein, qui a aussi donné beaucoup de résonance en musique classique, a été bien l'objet de beaucoup aussi d'imagination et puis d'incursion de cet élément dans des œuvres. Et voilà. Verdi n'est pas en reste.
Verdi n'est pas en reste. Alors je ne sais pas si Verdi voulait un peu jalouser Wagner. Alors on est dans son opéra le plus célèbre, Le Trouvert, l'un des plus célèbres, Le Trouvert, et au pied de la montagne. Alors parfois on appelle ça ce chœur, le chœur des bohémiens. Eh bien là, ils sont dans la montagne et les bohémiens, comment se fait-il, forgent. Ils ont une forge aussi, et donc quand on dit forge, on dit bien sûr enclume. Donc je vous propose de Verdi, dans le premier acte, ce moment important où les chœurs des bohémiens chantent la puissance de la flamme et de la forge.
Thank you.
Voilà. Hein, Verdi n'était pas en reste.
Hein. Oui.
Il savait se servir aussi de l'enclume.
Voilà, tel un métronome.
Voilà. C'est bien cadré, les mesures. Ouais. Hein. Voilà, donc nous sommes dans cette fin du 19e siècle, début 20e, et nous allons arriver à un moment assez important dans l'histoire de la musique. En Russie, il s'est passé la révolution. La révolution a été quand même assez violente hein, en Union soviétique, et il s'organise tout un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, les musiciens voient dans cette révolution, les musiciens russes de l'époque, Prokofiev et toute une série d'autres musiciens voient dans ce moment-là les perspectives d'ouvrir une autre musique, hein, une musique un peu on appellera les constructivistes. Oui. Et cette musique va être dans un mouvement aussi d'architecture et de peinture. Mais bon, c'est un peu difficile parce que les révolutionnaires, s'ils veulent changer les idées, en art, très souvent, ils sont très conservateurs. Mmh. Bon, par exemple, Staline, lui, il aurait voulu qu'on écrive toujours la musique de Tchaïkovski. Il n'aurait pas voulu qu'on dépasse ce stade-là. Et bon, il valait mieux s'entendre avec Staline que ne pas s'entendre. Mmh. C'était plus prudent. Et donc, tous ces jeunes compositeurs qui voyaient, qui étaient dans le mouvement d'industrialisation de la Russie, ont voulu participer à l'élan national. Et Mossolov, qui était un compositeur dont le beau-père de sa mère était français et profondément marxiste. Donc Mossolov a toujours été convaincu que l'avenir du monde, c'était le marxisme qui devait prendre le pouvoir. Et il écrivit des ballets, et en particulier un ballet qui s'appelle L'Acier. Et on va entendre, bien sûr, les Fonderies d'Acier qu'il écrivit. Et vous entendrez, bien sûr, toute cette atmosphère de Fonderies d'Acier, toute cette musique puissante qui annonce un monde qui doit changer, un monde nouveau. Cependant, cette musique ne plut pas du tout à l'Union des musiciens à Moscou. Mmh. Et Mossolov faillit aller au goulag. Et il fut sauvé parce que on hésita et finalement on l'envoya au Kazakhstan récupérer les chants des bergers kazakhs.
En gros, c'était le placard de l'époque.
C'était le grand placard, mais à l'air, hein. La guerre de l'époque, et toute une série de musiciens disparus de la circulation. Hein. C'était Lourier, c'était Prostopopov et Roslavets, tous ces musiciens, parce qu'on leur reprochait leur modernisme, etc. Bon, ils faisaient pas du Tchaïkovski. Enfin, écoutons quand même Fonderies d'Acier de Mossolov.
Et là, on va se rendre compte, effectivement, de la dimension, de la puissance orchestrale que peut développer
un orchestre.
Ces forges, cet orchestre et ses enclumes.
Thank you.
là on se rend compte de toute la dimension de la puissance de l'orchestration de Mossolov, hein, oui. Cette fonderie que l'on imagine véritablement dans la tête, oui. Avec ses percussions, et puis ses cuivres très graves.
Grave, cette puissance. Ouais. Voilà. Hein. Donc, mais Mossolov avait eu comme professeur Prokofiev. Et ce n'était, c'était un peu cette espèce de musique mécanique, tu vois, voilà. Enfin, il a été accusé de formalisme, bon, comme l'a été plus tard Shostakovich, bon, c'était, ce mot formalisme servait à condamner les gens quand ils étaient pas dans la ligne. Ils écrivent, on leur reprochait de pas écrire pour le peuple. Voilà, bon, mais eux avaient pas du tout ce sentiment, hein, mais bon, c'est un épisode un peu tragique de l'Union soviétique.
Alors, poursuivons cette aventure de l'enclume à travers les siècles, Michel, avec des aspects plus contemporains à présent, et on s'aperçoit finalement que, même si le son de l'enclume est assez aigu, ça, il n'évoque pas vraiment intrinsèquement la puissance,
non.
Il est toujours intégré dans des formations, effectivement, où on évoque de la puissance.
De la puissance, voilà. Donc, je vous propose donc Ionisation d'Edgar Varèse. Alors Edgar Varèse a été un compositeur né en 1900, je crois, hein, et il a été très intéressé. Il est allé aux États-Unis et comment dirais-je, à un moment donné, il s'est dit mais il faut arrêter d'écrire la musique en notes. La musique c'est des sons. On va assembler des sons et on va les bâtir une œuvre à partir de différents sons, etc. Il était très en avance de son temps parce qu'il n'y avait pas encore la musique électroacoustique, il n'y avait pas encore les synthétiseurs et dans les années 20 ça n'existait pas. Mais il a écrit ce morceau Ionisation qui est tout un symbole du progrès de la technique, hein, de particules qui se chargent d'électricité, qui sont ionisées. Et c'est un morceau où il y a tout un pas un gros orchestre de cordes, mais il y a quand même près de 37 instruments à percussion. Oui, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Pas rien. Alors j'ai trouvé une version par Pierre Boulez de Ionisation. Voilà, donc on va l'écouter. Alors il faut dire qu'il était quand même bien en avant sur son temps parce que plus tard Pierre Henry et Pierre Schaeffer deviendront les grands, mais eux ils auront l'électroacoustique qui les aideront à construire de la musique et à inventer des sons, alors que Edgar Varèse, lui, il était à partir des instruments, il ne se servait que de ses sons, il n'écrivait pas la musique comme avec les notes comme traditionnellement.
C'était un peu l'amorce de l'autre musique contemporaine,
bah,
finalement.
Oui, tout à fait, c'est l'amorce, hein. Varèse était terriblement en avance sur son temps. Ouais. Donc le morceau que nous allons entendre était quand même composé dans les années 20. Hein. Mmh. Donc il était bien en avance sur son temps. Ouais,
hein. Avec cette dimension de l'objet sonore, hein, c'est ça.
L'objet sonore, oui, ça sera Pierre Schaeffer plus tard, l'objet sonore. Voilà, Ionisation d'Edgar Varèse. Thank you.
Voilà, on arrive au terme de cette composition de Edgar Varèse, Ionisation. Edgar Varèse.
Alors, j'avais pas tout à fait dit la bonne date de naissance d'Edgar Varèse. Edgar Varèse était né en 1883 et il est mort en 65. Donc c'est un contemporain.
Tout à fait. Et cette œuvre écrite en 1929.
Voilà.
Et c'est assez singulier puisque c'est une des premières œuvres pour percussion.
Où il y a tant de percussions écrites par un homme, mais sans note de musique.
Sans note de musique, ouais, tout à fait. Il parlait même, d'après les dires de Wikipédia, qu'il précisait plus la taille finalement de l'instrument, de ses enclumes, que la hauteur du son.
Que la hauteur du son, exactement, oui.
Là, on rentre effectivement dans la dimension de l'objet sonore, avec effectivement cette pièce écrite pour 13 percussionnistes. Hein, on a pu entendre distinctement les enclumes.
Les enclumes, oui, bien sûr. Alors donc, ce qu'on peut ajouter, c'est que il y a eu encore quelques morceaux célèbres. Hein. Dans Britain, la fournaise ardente, il y a deux enclumes. Et dans Copland, qui est un compositeur américain célèbre, Aaron Copland, il y a le chant du forgeron dans sa suite numéro 2 pour orchestre, où il existe, où il y a une enclume aussi. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de l'enclume. Enfin, je ne sais pas si les conservatoires recherchent beaucoup de joueurs d'enclume.
Ça va peut-être partie de la panoplie du percussionniste, de manière très ponctuelle pour l'utilisation d'enclume. En tout cas, bien utilisé dans les musiques de films, où on recherche un côté aussi massif orchestral.
Bien sûr.
On peut parler de, mais pareil, dans tout ce qui a été répertorié, Star Wars, Les Dents de la Mer, Titanic, Alien, Terminator, Matrix, voilà des films où effectivement il y a une dimension, une puissance assez énorme.
Voilà.
Et les enclumes ont participé donc à ces différentes compositions.
Et ben,
pour l'aspect de l'enclume.
Voilà, à travers la musique.
À travers la musique et sans se faire mal au doigt.
Voilà.
Merci beaucoup Michel pour cette proposition.
À bientôt.
Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.